de regarder le voisin à côté, qu'il a une rose. Et je vais trahir quelque chose qui s'est passé là tout à l'heure. Et Dominique et Richard m'ont regardé. Ils m'ont dit, t'es une belle rose noire. Eh bien, je vous assure que vraiment vous êtes particulier. Je suis particulier. Vous êtes particulier. Et le Seigneur vous aime. Et vous êtes vraiment précieux à ses yeux tels que vous êtes. Je vous invite à prendre un temps pour l'écoute de la parole du Seigneur. Et permettez-moi d'introduire le message d'aujourd'hui par une histoire personnelle avec ma belle-mère. C'était un été. Nadine et moi, nous étions en vacances chez sa maman. Et le premier jour de notre arrivée, lors du petit déjeuner, j'entendais un son discontinu et aigu qui venait de très loin. Intrigué, je lui demande si elle entendait la même chose. Elle me dit oui, et elle ajouta, j'entends cela depuis quelques jours, et il y a un oiseau qui fait son nid dans le toit. Le soir venu, pendant le repas, j'entendais toujours le même son discontinu et aigu. Et je me suis dit, là, un oiseau qui fait son nid dans toute la journée et même le soir, c'est rare. Alors j'ai commencé à chercher et au bout d'un petit temps, j'ai fini par trouver d'où venait ce son discontinu et aigu. Le son était un bip, bip, bip de son détecteur de fumée qui indiquait que la pile était faible et qu'il fallait la changer. Le bip, bip, bip lointain que j'entendais n'était pas un oiseau, mais c'était un avertissement pour changer de pile. Et je crois que vous pouvez facilement imaginer les conséquences potentielles de la défaillance d'un système de détecteur de fumée alors que vous dormiez à l'étage et que l'incendie se déclare. Cela me fait penser à un témoignage vraiment très glaçant d'une mère de famille que j'avais entendue qui disait « Si seulement j'avais installé le détecteur de fumée, mes trois enfants seraient encore en vie. » Tout cela pour vous dire que qu'ignorer changer la pile de son détecteur de fumée peut, en cas d'incendie, devenir une question de vie ou de mort. Je vous rassure, mon message d'aujourd'hui n'est pas pour vous parler des piles et des détecteurs de fumée, mais pour nous inviter à prendre au sérieux le péché. Tout comme dans l'exemple du détecteur de fumée, ignorer le péché, c'est une question de vie ou de mort. À cette différence qu'avec le détecteur, c'est dans l'éventualité d'un accident qui peut se produire. L'éventualité d'un incendie. Alors qu'avec le péché, la Bible nous dit avec certitude qu'au retour de Christ, tout homme sera jugé selon ses actes et l'issue de ce jugement sera soit la vie ou la mort éternelle. Le texte que je nous propose aujourd'hui est dans le livre de Luc. Nous lirons Luc 17, du verset 1 à 5. Et ce texte nous parle du péché et du pardon des offenses. Mais avant d'ouvrir la Bible pour lire ce texte ensemble, je vous invite encore à prier. Oui, Dieu notre Père, merci pour ta parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de la lire aujourd'hui et de s'en rendre compte par nous-mêmes de sa richesse pour nos vies. Oui, Père, aide-nous par ton Esprit Saint à te voir clairement, toi, le Dieu souverain. Oui, Père, viens transformer nos vies par ton enseignement et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et lire avec moi le texte Luc 17 du verset 1 à 5. Le livre de Luc est un livre d'un des quatre évangiles du Nouveau Testament. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le texte dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache un coup au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard, 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « Je le regrette », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Dans ce texte, il y a 3 points qui m'ont parlé et je vous propose de les partager avec vous ce matin. Le premier point vient du verset 1 que je résume sous l'idée que la chute est inévitable. Et c'est ce qui nous est donné dans le verset 1 et 2. Dans ce monde où le mal n'est pas encore détruit, la chute est inévitable. C'est ce que nous voyons dans le verset 1. Il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. En creusant un peu le texte grec, il dit littéralement, il est impossible que des scandales ne se produisent. Et quand Jésus dit cela à ses disciples, ce n'est pas pour nous dédouaner ou pour les dédouaner de leur responsabilité face au péché. Contrairement aux pensées du monde, chacun est responsable de ses péchés. Devant Dieu, nos excuses classiques, ce n'est pas moi, c'est la faute à, ou nos recherches de circonstances atténuantes ne tiennent pas debout devant Dieu. Nous sommes bel et bien responsables de nos actes et de nos fautes devant Dieu. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder ce que nous faisons, ce que nous disons, et qui sont dictés non par le malin, mais par nos pensées, nos propres pensées corrompues, nos rébellions venant de notre vieille nature. La Bible nous enseigne de prendre vraiment au sérieux le péché. Et le verset 1 le confirme sous une autre forme. Dans le contexte de ce verset, Jésus parle de l'acte par lequel on pousse au mal quelqu'un qui cherche à marcher dans la lumière. Et il explique que c'est une chose particulièrement grave quand il s'agit de personnes jeunes dans la foi. Jésus précise dans le verset 2 la gravité de cet acte et il dit ceci, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. » En voilà combien Dieu a en horreur le péché. Permettez-moi de vous poser cette question, à vous et bien sûr à moi aussi. Détestes-tu vraiment le péché dans ta vie? Ou cela te fait ni chaud ni froid de laisser le péché s'installer en toi? J'aime bien comme un commentateur biblique, Spurgeon, répond à cette question. Il dit ceci, « Ceux qui tolèrent le péché dans des domaines qu'ils considèrent sans importance le toléreront rapidement dans des domaines plus importants. » Peut-être que tu n'aimes pas qu'on parle du péché. Peut-être que tu ressens de la gêne. Tu ressens de l'inconfort quand on parle du péché. Si c'est le cas, j'ai envie de te dire que c'est normal. Car c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu de toucher nos cœurs ainsi. C'est pour cela qu'il a donné la loi à son peuple. Alors, n'ignore pas ce que tu ressens. Viens ou reviens tout simplement à Dieu. Comme nous le chantons quelquefois, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Mais pour cela, tu dois te détourner de ton comportement mauvais et croire avec foi en Christ qu'il est mort et ressuscité pour tes mauvais comportements. En tout cas, si tu souhaites venir ou revenir à Christ aujourd'hui, n'hésite pas à en parler à quelqu'un, des conseils, ou à Laurent, notre pasteur. Il répondra à tes questions et priera avec toi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, en regardant ma vie, je me rends compte qu'elle est faite de luttes intérieures permanentes entre le péché et la grâce. Nous étudions dans notre groupe de maison, cette année, le livre de Romains, qui met un gros coup de stabilo sur cette question de péché et de grâce pour moi. Et lors d'une préparation de ces études, où souvent je me pose beaucoup de questions à moi, et ça mouline beaucoup dans ma tête, je m'étais fait cette réflexion où je me disais, qu'est-ce que cela devait être cool pour le chrétien si, dès sa conversion, la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit venaient d'un seul coup déraciner en nous, de façon autoritaire, une fois pour de bon, le péché dans notre cœur. N'est-ce pas que cela serait vraiment cool pour nous? Ne plus avoir à faire face à la lutte intérieure permanente, avec des fois ce sentiment de culpabilité qui peut être associé. Mais voilà, Dieu dans sa sagesse voit les choses autrement. Il a estimé que les chrétiens doivent constamment ressentir l'état misérable dans lequel ils se trouvent afin de ne compter que sur sa grâce, sur la grâce de Dieu. Est-ce que cela vous arrive de ressentir vraiment votre état d'homme misérable devant Dieu? Vous savez, tout comme dans l'exemple du détecteur de fumée, Dieu a mis en nous une alarme qui nous permet d'identifier le péché afin de faire appel à sa grâce. Cette alarme, on en parlait l'autre jour dans notre étude, c'est Marthe qui disait, c'est notre conscience. N'ignorez donc pas le bip, 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 ou le signal que vous pouvez détecter en vous et qui vous dit que ce qui vous faites, ce qui est en vous, n'honore pas Dieu dans votre vie. Confesse-lui ces choses, et compte sur sa grâce pour t'en délivrer. Dans 1 Jean 1:9, nous dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu pardonne à ses enfants qui pêchent contre lui, dès lors qu'ils viennent à lui avec une attitude de repentance et lui demandent pardon. La grâce de Dieu est si grande qu'elle peut laver le pécheur de tous ses péchés pour en faire un enfant de Dieu. Même quand nous trébuchons, nous pouvons toujours être pardonnés. Le premier point qui m'a parlé dans le texte d'aujourd'hui est que la chute est inévitable. Mais cela ne nous dédouane pas de notre responsabilité devant Dieu. Le deuxième est de reprendre un frère qui vous a offensé est nécessaire. C'est ce que nous dit le verset 3. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. Dans certaines versions, il est précisé, si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Vous remarquerez qu'avant de reprendre son frère, le texte nous donne un avertissement. Et c'est quoi cet avertissement ? Prenez bien garde. Faites bien attention à vous-même. C'est une invitation à s'examiner soi-même avant d'aller reprendre le frère qui vous a offensé. Cela nous laisse entrevoir que reprendre un frère qui vous a offensé, c'est une question qui se situe au carrefour de plusieurs choses, comme le jugement de l'autre, l'orgueil, l'humilité, l'écoute et la compréhension mutuelle, l'estime de soi, et j'en passe. L'idée que me suggère l'avertissement de Jésus ici, c'est que notre orgueil, notre plaisir de la chair ne doit en aucun cas être le moteur pour reprendre un frère qui vous a offensé. Jésus nous enseigne par là que reprendre un frère qui nous a offensé passe par l'auto-évaluation et l'amour pratique du Seigneur en nous. Imaginez-vous travailler avec un frère ou une sœur dans un entrepôt où vous avez à décharger des caisses de toute la journée. Malheureusement, vous avez mal au dos et voilà que votre frère ou sœur vient vous voir pour vous montrer comment bien faire pour porter les caisses sans se faire mal au dos. Que direz-vous de cette sœur et de ce frère? J'imaginais que vous apprécierez cette personne pour l'attention qu'il porte à vous et le souci qu'il a de vous. À l'inverse, comment qualifierez-vous cette personne, sachant votre problème de dos, elle ne fait rien, et mieux encore, vous charge encore plus. Vous me direz, c'est un pauvre frère, une pauvre sœur, n'est-ce pas ? Jésus nous invite dans ce verset 3 à toujours veiller à l'intérêt supérieur des autres et à faire attention à l'état de notre propre cœur. La chute est inévitable, nous l'avons vu. Reprendre celui qui nous a offensés est nécessaire. Nous venons d'en dire quelques mots. Le dernier point qui m'a parlé dans le texte de ce matin, c'est le pardon est essentiel. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 4 à 5, où le Seigneur ajoute cela à la fin du verset 3, où dit « S'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire « Je le regrette », tu lui pardonneras. » Cela me fait dire qu'il faut toujours pardonner et pardonner. C'est un devoir, une obéissance que de pardonner à l'ordre, que de pardonner parce que c'est un ordre que le Seigneur nous donne, de pardonner à l'autre à l'image de la dette que Dieu nous a remise et qu'elle nous remet à chaque fois avec notre rébellion à son encontre. À chaque fois que nous revenons à lui, il nous pardonne nos dettes. Cela veut dire que la grâce que nous avons et la grâce de Dieu qui est en nous et qu'il nous donne, cette grâce doit se voir dans nos vies, dans nos actions. Vous remarquerez ici qu'il est question de pardonner 7 fois dans une même journée à la même personne. J'ai sauté vite fait sur ma calculatrice. 7 fois en une journée à la même personne, ça fait 3,25 minutes te demander pardon pour la même chose, y compris la nuit. Jésus le redit, dans Matthieu 18, verset 22, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Du temps des pharisiens, ce qui est enseigné est de pardonner à quelqu'un que 3 fois. Et au-delà de 3 fois, c'était à la personne concernée de décider s'il souhaite pardonner plus ou pas. Et là, Jésus fait voler en éclats cette pratique des pharisiens en disant « pardonnez, pardonnez encore et encore ». Nous sommes donc appelés à pardonner, quoi qu'il en coûte pour nous. Je sais, vous me direz, c'est facile à dire qu'à faire. Et je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas simple à faire humainement. Mais avec l'œuvre du Saint-Esprit, cela devient possible par un cheminement plus ou moins long pour chacun. Le verset 4 nous dit « s'il regrette », d'autres versions traduisent « s'il se repent, alors tu lui pardonneras ». Souvent, nous avons tendance à voir des dispositions à la repentance de l'autre pour être nous-mêmes disposés à pardonner. Alors que l'esprit de grâce que nous avons nous appelle au pardon par pure compassion. Car Dieu, par pure compassion, par pure grâce, nous a remis et nous remet à chaque fois nos dettes, à chaque fois que nous nous tournons vers lui, nous lui demandons et il nous le remet, nos dettes, par compassion et par pure grâce. Quand j'étais petit, il m'arrivait de faire du mal, d'insulter méchamment mes frères. Et quelquefois, ils allaient se plaindre à papa et à maman. Et comme beaucoup de parents chrétiens, ils me demandent d'aller m'excuser. J'exécutais leur demande en allant voir mes frères et en leur disant du bout des lèvres, et souvent, sans vraiment le penser au fond de moi, « excuse-moi ». L'excuse était tellement superficielle que quand l'inverse se produisait, c'est-à-dire quand ce sont mes frères qui étaient méchants avec moi et qu'ils venaient, sur la demande de mes parents, s'excuser, j'avais du mal à l'accepter, car je voyais leur cœur comme le mien était quand je leur demandais pardon. Cet exemple illustre pour moi un piège dans lequel nous pouvons tomber avec la question du pardon. C'est conditionner mon pardon à l'autre, à la manière dont je pardonne aux autres. Et non à la manière dont Dieu pardonne ou à la manière dont Dieu me demande de pardonner. Et si ce n'est pas ce piège-là, c'est peut-être celui de vouloir juger le cœur de l'autre avant de pardonner. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont raison, ils ont des raisons légitimes de ne pas pardonner. Et ils attendent de voir le changement réel pour pardonner. Je crois que le Seigneur ne nous appelle pas à juger le cœur de l'autre avant de pardonner. Celui qui jugera le cœur, nous dit la Bible, c'est Dieu. Et le commandement du Seigneur, c'est que nous pardonnons non aux autres, comme lui nous a pardonné à chaque fois que nous revenons à lui. Je nous invite donc à laisser à Dieu le soin de juger les cœurs et à nous attacher à prier pour la réconciliation, non seulement avec l'autre, mais aussi pour la réconciliation de chacun avec Dieu. Si Dieu nous voit tels que nous sommes, si Dieu qui voit tout, si Dieu qui sait tout et qui pardonne tout nous commande de toujours pardonner, j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour remettre en question son commandement? Faisons-lui confiance et surtout demandons-lui sans cesse l'assistance de son Esprit Saint pour pardonner, pardonner et toujours pardonner. Pour terminer, au verset 5, ce que les apôtres demandent à Jésus, après leur avoir parlé du péché et du pardon des offenses, les apôtres disent ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus leur répond dans la suite de ce texte en disant en substance, parfait, votre demande de plus de foi. Mais n'oubliez pas que la foi est inséparable de l'obéissance et de l'humilité. Pour conclure, je laisse à votre réflexion cette citation d'un commentaire biblique que j'aime bien, qui dit ceci, être chrétien signifie pardonner à celui qui est inexcusable parce que Dieu a pardonné et pardonne l'inexcusable en nous. Que Dieu nous accorde la grâce d'agir selon sa volonté pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à prier encore. Merci Seigneur pour les avertissements que tu nous donnes dans ta parole et pour les stimulations aussi que contenues dans ta parole. Je prie de faire descendre dans nos cœurs, dans du plus profond de nous, ce qui vient de toi et que nous venons d'écouter. Donne-nous de t'obéir et accompagne-nous dans l'exercice du pardon, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous te implorons vraiment ta présence, ton Esprit Saint, pour nous aider et nous accompagner. Réveille, Père, notre conscience sur des choses qui ne t'honorent pas dans nos vies. Et quand nous le voyons, Père, je te prie de plier nos genoux devant toi en confession. Merci pour ta grâce si grande qui fait toujours de nous tes enfants, même quand nous trébuchons et que nous revenons à toi d'un cœur sincère. Nos cœurs te rendent gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter les